Bonjour à tous. On va commencer, on va poursuivre le survol des doctrines essentielles qu'on a commencé la semaine dernière avec Alexandre. Donc, on poursuit ce matin avec la leçon 2. On va baisser la tête et demander la présence, la grâce du Seigneur pour ce temps que nous allons passer ensemble. Prions. Père Céleste, nous sommes reconnaissants de ce que nous pouvons nous rassembler encore ce matin en ta présence. Seigneur, tu as dit que là où deux ou trois sont rassemblés en ton nom, tu es au milieu d'eux. Et nous avons la certitude ce matin que tu es avec nous. Seigneur, puisses-tu par ta grâce venir nous accompagner dans nos échanges, dans nos discussions, en sorte que nous puissions apprendre de toi ce matin au travers de l'enseignement que tu nous permets, Seigneur, d'apporter à ton Église, à l'Assemblée. Sois béni, Seigneur, de ce que c'est toi qui enseignes ton peuple, c'est toi qui viens instruire ton peuple. Permets que ta parole ce matin soit une parole vivante dans nos vies, dans nos cœurs, et qu'elle produise du fruit et du fruit en abondance. Sois béni dans le nom de Jésus. Amen. Donc, rebonjour. Avant de commencer la leçon aujourd'hui, j'aimerais qu'on puisse prendre, j'ai pris l'exemple d'Alexandre la semaine dernière, j'ai trouvé que c'était une très bonne chose d'introduire avec un texte qui nous donne une idée générale de ce qu'on va ensemble parcourir ce matin. Donc, dans l'Évangile de Jean, au premier chapitre, les 18 premiers versets. Donc, si vous avez vos Bibles, tournez avec moi dans l'Évangile de Jean, au chapitre 1, les versets 1 à 18. Oui. Donc, Jean 1, 1 à 18, et vous les avez aussi, vous avez ces choses dans si vous avez pris un peu le résumé de la leçon aujourd'hui, donc les copies papier derrière, vous avez aussi cette information. Donc là, il est écrit, « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. » En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il eut un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin et pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière. Mais il est paru pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié, c'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé car il était avant moi. Et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce sur grâce, car la loi a été donnée par Moïse et la grâce et la vérité sont venus par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu, Dieu le Fils unique, qui est dans le sein du Père, est celui qui l'a fait connaître. Amen. Voilà un texte qui a assez... C'est un texte qui m'a toujours bouleversé parce que j'ai l'impression que dans ce court texte, on a rassemblé toutes les vérités qu'un croyant doit savoir dans sa vie. Le texte commence en disant qu'au commencement était la parole, que c'est la parole qui était Dieu, la parole était Dieu. Tout ce qui existe dans l'univers, toutes les créations, toute la création de l'univers vient de la parole. Et naturellement, cette parole s'est matérialisée sous la forme corporelle qu'on connaît et qu'on a eu le privilège de connaître personnellement, la personne de Jésus-Christ. Cette parole est venue, elle a habité parmi les hommes et elle a lui et les hommes ont pu voir, contempler cette lumière-là. Ça, c'est la parole de Dieu. Donc, quand on parle de la parole, ce matin, on va parler beaucoup de la parole, on va tourner autour de la parole. Quand on parle de la parole, on parle aussi de Dieu. Parce que la parole, c'est Dieu. D'après ce texte qu'on vient de lire ce matin, la parole, c'est Dieu. C'est Dieu lui-même. Mais aussi la parole, c'est aussi le verbe de Dieu. C'est ce que Dieu a prononcé. Au-delà de la personne de Jésus qui représente la parole de Dieu, c'est aussi le verbe de Dieu, c'est le logo, c'est le verbe de Dieu, la parole qui est sortie de Dieu. Et ce matin, on va voir qu'il est important que nous puissions comprendre la véracité, nous puissions avoir cette foi en la véracité de la parole si nous voulons mener une vie chrétienne authentique. Donc, j'aimerais commencer ce matin en allant on aurait pu lire tout le Proverbe 19 aussi pour introduire cet enseignement, mais ça aurait été trop long. Ceux qui ont essayé de lire Proverbe 19, donc je vous invite juste à lire deux, trois versets du Proverbe 19. Psaume 119, merci, pas Proverbe. Proverbe, il n'y a que 31 versets. Donc, 31 chapitres, donc dans Proverbes. Donc, psaume 119 plutôt. Donc, vous avez la référence pour ceux qui ont leurs notes. Et on va lire juste trois versets dans le psaume 119, 9, 11 et 16. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier en se conformant à ta parole? Le verset 11 dit, « Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » Je fais, et le verset 16 plus loin dit, « Je fais mes délices de tes prescriptions, je n'oublie pas ta parole. » Et ça, c'est quelque chose qui vient nous rappeler quelle doit être notre attitude en tant que chrétien vis-à-vis de la parole. « Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » Parce que si on veut mener une vie chrétienne authentique, nous avons une prémisse. La prémisse, c'est que nous devions connaître ou baser notre vie chrétienne sur la parole. Et si cette parole ne s'enracine pas dans nos vies, ne s'enracine pas dans nos cœurs, il y a de fortes chances que notre vie ne soit pas conforme à ce que Dieu désire pour nous. C'est pourquoi le psalmiste dit « Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi » parce que cette parole va me préserver, va me préserver dans mes paroles, va me préserver dans mes actions, va me préserver dans mes pensées, va me préserver dans mon attitude et à cause de cela, je vais pouvoir vivre et mener ma vie conformément au plan que Dieu a pour moi. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Le verset 16 qu'on a lu aussi nous indique que le psalmiste veut s'approprier chaque prescription, chaque trait de lettre écrit dans la parole. Il veut le garder. Il ne veut pas échapper une seule prescription de Dieu en ce qui le concerne. Il veut que cette prescription puisse avoir un effet dans sa vie. Donc, le psalmiste dit, « Je n'oublie pas ta parole. Je fais en sorte de ne pas l'oublier. » Certes, aujourd'hui, on a beaucoup de, on va dire, beaucoup de facilité pour ne pas oublier la parole de Dieu. On a nos Bibles, il y a encore quelques années, les gens n'avaient même pas le droit d'avoir la Bible parce que c'était quasiment comme interdit de posséder la Bible. Mais aujourd'hui, je crois que vous pouvez avoir autant de Bibles que vous désirez chez vous et il n'y aura aucun procès contre vous. Vous pouvez même vous promener avec votre Bible dans votre téléphone intelligent, dans votre tablette. Aujourd'hui, on a tous les moyens pour avoir cette parole comme un peu plus près de nous à chaque instant et s'inspirer. Et on a peut-être le moyen ultime, c'est d'essayer autant que possible de mémoriser quelques passages clés de la parole. Et cela va nous aider quand nous traversons des difficultés sans savoir comment, mais l'Esprit de Dieu va utiliser ces enseignements, ces paroles que nous avons déjà lues, qui sont quelque part déjà en nous et qui sont peut-être cachées quelque part dans le coin de notre mémoire. Il va les ressortir et encore une fois, cela nous aide à mener une vie conforme à la parole de Dieu. Donc ce matin, je vais aborder deux grands points. C'est sûr qu'on ne fait que survoler la doctrine de la parole. On aurait pu prendre une session entière pour en parler. Mais aujourd'hui, on va survoler et je vais vraiment survoler la première partie assez rapidement. Et la deuxième partie, on va prendre un peu plus de temps sur les attributs. Donc la première partie va porter sur est-ce que nous pouvons faire confiance à la parole de Dieu? Comment est-ce que la parole de Dieu, que ce soit l'Ancien Testament, quand je parle de la parole de Dieu, je parle de toutes les Écritures, les 6 livres de la Bible, donc de Genèse à Apocalypse. Est-ce que tout ce qui a été écrit, en quoi cela contribue à... Comment est-ce que ces choses-là sont la règle de conduite qui décrit la manière dont nous devons nous conduire en tant que chrétiens? Donc ça, c'est la première partie. Donc, le cas de la Bible, la parole de Dieu écrite comme autorité suprême de la foi. Si nous voulons devenir chrétiens, si nous voulons marcher comme des enfants de Dieu, nous n'avons pas, il n'y a pas un autre livre caché, il n'y a pas comme chez les Illuminés, il y a un livre caché, c'est vraiment un livre réservé à une élite spéciale et il faut vraiment avoir accès à cela pour comprendre tous les rouages du mystère de Dieu. Non, la parole de Dieu, la Bible que vous possédez est l'autorité suprême et suffisante en tout ce qui concerne la foi et la conduite de la vie d'un chrétien. Donc ça, c'est la première partie que je vais aborder avec vous. Donc, l'Ancien Testament. Commençons par l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, une des premières questions, aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, et probablement qu'il vous est déjà arrivé de dire, « Ok, non, non, ça c'est juste un verset de l'Ancien Testament. » Qu'est-ce que cette phrase-là cache? Cette phrase-là cache le fait que ce n'est pas si important, ce n'est pas le Nouveau Testament. Ce n'est qu'un verset de l'Ancien Testament. C'est-à-dire comme si on avait divisé la parole de Dieu, la Bible, en deux parties. Une partie qui est comme plus actuelle, à laquelle on peut faire confiance, et une partie qui est comme... C'est tellement vieux que, bon, on n'a pas vraiment... Peut-être que ça ne dit pas exactement ce dont nous avons besoin. Mais ce qu'on veut dire ici, c'est que l'Ancien Testament a la même autorité que le Nouveau Testament. Tout ce qui a été écrit dans l'Ancien Testament à la même autorité que le Nouveau Testament. Et les raisons qui nous amènent, c'est que l'Ancien Testament est inspiré de Dieu. Tout ce qui est écrit dans l'Ancien Testament est inspiré de Dieu. Et on peut regarder rapidement quelques textes qui sont cités dans le Nouveau Testament. C'est exprès qu'on prend ces textes dans le Nouveau Testament pour attester de la véracité et de l'inspiration divine de l'Ancien Testament. Parce que si on pense que le Nouveau Testament, c'est la référence... On fait bien. Alors le Nouveau Testament dit que l'Ancien Testament est inspiré entièrement de Dieu. Donc on ne peut pas avoir une preuve plus tangible que celle-là. Et quand nous regardons donc rapidement quelques versets dans le Nouveau Testament, par exemple dans Romains 3, le verset 2, il est, je ne cite pas tout le verset, mais juste un extrait du verset qui dit « Cet avantage est grand de toute manière. Tout d'abord, c'est à eux que les paroles révélées de Dieu ont été confiées. Les paroles révélées de Dieu ont été confiées. C'est Romain qui l'atteste que toutes les paroles qui avaient été dites dans l'Ancien Testament ont été dites par Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même qui a prononcé ces paroles. Actes 4, 24 à 25 vient renchérir. Après les avoir écoutés, ils s'adressèrent tous ensemble à Dieu en disant, « Maître, tu es le Dieu qui a créé le ciel et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. C'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David. » Donc, vous voyez tous les psaumes que David a écrits, tout ce qu'on a écrit et tout ce qui a été dit dans l'Ancien Testament par David. Les apôtres ici, dans Actes, en annonçant la parole, viennent encore confirmer que ces paroles qui avaient été dites par notre ancêtre, ton serviteur David, c'est par le Saint-Esprit. C'est Dieu qui a inspiré ces paroles. David ne les a pas inventées ni imaginées. C'est sous l'inspiration du Saint-Esprit, sous l'inspiration de Dieu, que ces choses ont été dites. Le verset, et quand on va dans Actes 28, le verset 25, là encore, il est écrit, « comme il se retirait, non, bah, oui, chapitre 28, le verset 25. Non, je vous lis juste l'extrait. C'est avec raison que le Saint-Esprit a dit à nos ancêtres par l'intermédiaire du prophète Ésaïe. Donc, dans cet extrait, on voit aussi que tout ce que les prophètes ont dit, entre autres ici, l'orateur cite en particulier le prophète Ésaïe, il dit que c'est par le Saint-Esprit que ces prophètes ont parlé. Et on peut citer comme ça, il y a des dizaines et des dizaines de textes dans le Nouveau Testament qu'on peut citer qui viennent attester que tout ce qui a été écrit dans l'Ancien Testament a été écrit sous l'inspiration du Saint-Esprit. Que ce n'est pas vraiment des gens qui ont imaginé des choses, mais c'est vraiment sous l'inspiration du Saint-Esprit que ces choses ont été dites. Un deuxième argument qu'on peut avancer sur l'authenticité et le fait que l'Ancien Testament reste, comme le Nouveau Testament, une référence pour notre foi, c'est que Jésus lui-même s'y est souvent référé avec beaucoup d'expressions dans le Nouveau Testament. Quand Jésus parle, il revient toujours cette expression « il est écrit ». Il est écrit où ? Le Nouveau Testament a été écrit après Jésus-Christ. Mais si Jésus-Christ lui-même dit « il est écrit dans l'Ancien Testament, il est écrit dans, dans les livres de Moïse, il est écrit dans les psaumes, il est écrit dans les proverbes, il est écrit dans tous les récits que rapporte l'Ancien Testament », donc Jésus-Christ va continuellement utiliser cette expression « il est écrit ». Ce qui veut dire que si Jésus-Christ ne croyait pas en ce qu'il est écrit, il ne les citerait pas comme référence. Donc, le simple fait que Jésus les cite comme référence est un témoignage vrai de ce que ces textes-là sont dignes de confiance. Un autre élément qu'on peut avancer, c'est que Jésus témoignait beaucoup, beaucoup d'importance à tous les écrits de l'Ancien Testament et son ministère, sa vie, ont été menés conformément à ce qui est écrit. Vous vous rappelez du texte qui a comme démarrer le ministère officiel de Jésus-Christ dans Luc 4. Dans Luc 4, Jésus-Christ arrive dans une synagogue et on lui donne un rouleau pour faire la lecture. Et il dit, il arrive à la fin, donc il lit un extrait de l'Ancien Testament. Et il dit, ce que vous avez entendu là, c'est en train d'arriver. C'est exactement ce qui va arriver. Il est écrit que quand le Messie viendra, les aveugles verront, les sourds entendront, les boiteux marcheront. Et aujourd'hui, cette parole est devenue réalité. La vie de Jésus, son ministère, tout ce que Jésus a accompli, il les a accomplis conformément à ce que les prophètes ont annoncé des dizaines, des centaines et des centaines d'années avant lui. Il a accompli, sa vie a été quasiment à chaque trait de vie de Jésus-Christ correspond quelque part un texte de l'Ancien Testament. Quelque chose, Dieu l'avait déjà planifié depuis Genèse jusqu'à la fin de l'Ancien Testament. Jésus est venu, comme il le dira encore quelque part d'autre, « Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Je ne suis pas venu pour changer ce qui avait été dit par mon Père, par le Saint-Esprit pendant toutes ces années. Je suis venu pour que ces choses-là deviennent une réalité, pour que les gens puissent voir au travers de ma vie, de mon ministère et du travail que Dieu fait au travers de moi, l'accomplissement de ce que Dieu a promis. » Donc, voilà quelques éléments que nous pouvons citer, survoler rapidement en ce qui concerne l'Ancien Testament. Est-ce que l'Ancien Testament, pour nous, est la parole de Dieu? Je crois que la réponse est sans équivoque. Oui, l'Ancien Testament est la parole de Dieu. Maintenant, comme on est plus proche du Nouveau Testament, voyons quels sont les éléments qui nous atteste aussi que le Nouveau Testament vient de Dieu. Donc, le premier élément, c'est que les disciples, très tôt, après la mort et la résurrection de Jésus, ont compris clairement qu'il fallait transmettre. D'ailleurs, quel a été le dernier commandement de Jésus? Allez, faites de toutes les nations mes disciples et enseignez-leur quoi? Tout ce que je vous ai prescrit. Enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Ce qui veut dire que très tôt, les disciples ont réalisé qu'il y avait des choses à transmettre. Que eux, ils étaient des témoins oculaires pour la plupart d'entre eux et qu'ils devraient transmettre le message qu'ils ont reçu du Seigneur. Donc très tôt, c'était clair dans l'esprit des disciples qu'ils avaient un mandat clair qu'il fallait transmettre. Et on voit et quelques textes qui l'illustrent très bien. Et dans le chapitre 14 de Jean, au verset 16, c'est Jésus qui parle en rassurant les disciples que ce n'est pas un travail qu'ils vont faire d'eux-mêmes. Ce n'est pas comme ils vont se lever et dire, est-ce que Pierre, tu te rappelles de ce que Jésus disait quand on était à tel endroit? Non, ce n'est pas comme ça, ça s'est fait. Parce que Jésus leur a promis qu'il y aura un consolateur, l'Esprit de vérité. Quand il viendra, il prendra de ce qui est de moi et il vous l'enseignera. Il va vous rappeler des choses. Vous allez tout simplement réaliser que le Saint-Esprit que j'envoie va tout simplement faire ressortir à la surface l'ensemble des choses que vous avez partagées avec moi, que je vous ai enseignées pendant que j'étais encore et sur la terre avec vous. Et cela est attesté dans d'autres écrits, dans 1 Corinthiens 2, le verset 13, par exemple, on peut lire « Nous en parlons non avec des paroles qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec celles qu'enseigne l'Esprit, l'Esprit Saint. Ainsi, nous employons un langage spirituel pour exprimer ce qui est spirituel. » Les apôtres étaient convaincus qu'ils ne parlaient pas avec la sagesse, leur propre sagesse. Et si vous vous rappelez du discours de Pierre le jour de la Pentecôte, il était clair dans son esprit que ce n'était pas lui qui parlait. Il était évident dans son esprit. Il dit, ce que vous nous voyez faire, ce que vous voyez se produire, on n'est pas responsable de ça. On est quasiment victime. On est victime. C'est par l'Esprit de Dieu que ces choses-là se produisent en nous. Donc c'est ce que ce texte-là exprime clairement. Ce n'est pas par nous, mais c'est par le Saint-Esprit. Ce que nous enseignons, ce n'est pas par la sagesse humaine, mais c'est par le Saint-Esprit. Un peu plus loin, quand on reprend Jean et on retourne dans Jean au chapitre 16, le verset 12 à 15, il est écrit « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez les supporter maintenant. » Quand le défenseur sera venu, l'esprit de la vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Il révélera ma gloire parce qu'il prendra de ce qui est de moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père possède est aussi à moi. Voilà pourquoi j'ai dit qu'il prendra ce qui est de moi et qu'il vous l'annoncera. » Le texte, la parole que Jésus dit à ses disciples, probablement quelque temps avant qu'il les quitte, était pleine de sens. Quand le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité viendra, il prendra tout ce qui est de moi, tous mes enseignements, tout ce que j'ai partagé avec vous, et il vous le révélera. Et il dit, je le dis parce que ce qu'il prendra, c'est de moi, mais c'est aussi du Père. Parce que moi et le Père, nous sommes un. Il le dira quelque part dans Jean 17. Moi et le Père, nous sommes un. Ce que le Père possède, moi aussi, je le possède. Donc quand je dis, il prendra des choses de moi, entendez aussi, il prendra les choses du Père. Parce que ce que le Père possède, moi aussi, je le possède. Les disciples réalisaient eux-mêmes avoir un mandat clair. C'est évident que tout ce que les disciples ont enseigné, même les lettres que les apôtres ont écrites dans différentes églises portaient le sceau du Saint-Esprit. Même si ces choses ont été écrites en respectant la personnalité naturellement de ces auteurs, ça portait toujours le sceau du Saint-Esprit. Regardez avec moi rapidement dans 2 Pierre 3, le verset 16, ce que l'apôtre Pierre dit à propos des écrits de Paul, entre autres. Donc, c'est l'apôtre Pierre qui parle en faisant référence au texte que Paul a envoyé, aux lettres que Paul a envoyées à des églises. C'est ce qu'il fait dans toutes ses lettres, où il parle des choses, il s'y trouve certains points difficiles à comprendre et des personnes ignorantes et mal informées en tordent le sens, comme elles le font avec les autres écritures pour leur propre ruine. Donc ici, c'est clair que pour Pierre, toutes les lettres que Paul avait envoyées aux églises étaient des lettres inspirées du Saint-Esprit. C'était des paroles inspirées du Saint-Esprit. Est-ce que tout est clair dans ces lettres? Est-ce que tout est facile à comprendre dans ces lettres? Paul le reconnaît lui-même. Il dit, il y a des choses difficiles à comprendre dans ces lettres. Il y a des choses qui, des fois, dépassent notre capacité immédiate d'interpréter ou de comprendre. Mais est-ce à dire que quand je ne comprends pas une parole, c'est parce qu'elle n'est pas juste? À chaque fois que je ne comprends pas une parole, est-ce que la conclusion que je dois tirer, c'est qu'elle n'est pas vraie? Donc l'apôtre Pierre encourage les églises qui avaient reçu ces lettres que oui, certes, il y a des choses difficiles et malheureusement, dans ces assemblées, il y avait des gens qui avaient donc cette tendance à tordre le sens de ces paroles parce qu'ils ne les comprenaient pas. Et Paul et l'apôtre Pierre dit clairement, ils le font non seulement des paroles de Pierre, mais ils le font généralement de tous les textes et de la parole de Dieu qu'ils ne comprennent pas et ils le font pour leur propre ruine. Parce qu'en le faisant, ils s'écartent du chemin que Dieu a tracé pour chacune de ces personnes. Les apôtres affirment l'autorité des écrits du Nouveau Testament au même titre que ceux de l'Ancien Testament. Donc c'est clair dans Colossiens 4, le verset 16, l'Église, et on peut lire un texte que Paul a envoyé donc aux Colossiens. Et il dit, cette lettre, je vous l'envoie à vous. Lisez-le dans votre église, mais après, envoyez-le dans d'autres églises. Ce n'est pas juste une lettre adressée spécifiquement à une église. Elle reste vraie pour tous les croyants, même d'autres églises, même si cette lettre porte le sceau ou l'adresse d'une église en particulier. On le voit aussi dans 1 Pierre 1, le verset 12, où Pierre écrit « Il leur a été révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous qu'ils étaient au service de ce message. Les hommes qui vous ont prêché l'Évangile par le Saint-Esprit, envoyés du ciel, vous ont maintenant annoncer ce message dans lequel les anges eux-mêmes désirent plonger les regards. » Donc, il était clair aussi pour l'apôtre Pierre que le message qu'il portait était destiné à tous les croyants et que ce message n'était pas une manifestation humaine, mais une manifestation de l'Esprit de Dieu. Et ce message était vrai et devrait être considéré ainsi. 1 Corinthiens 14, 37 à 38. Si quelqu'un croit être prophète ou dirigé par l'Esprit, qu'il reconnaisse dans ce que je vous écris un commandement du Seigneur. Et si quelqu'un veut l'ignorer, qu'il l'ignore. Donc pour l'apôtre, il était clair que ce qu'il était en train de dire n'était pas une simple recommandation personnelle. Parfois, on peut faire une recommandation personnelle. Mais l'apôtre ne faisait pas une recommandation personnelle. Ce qu'il disait, il dit, c'est un commandement du Seigneur. Et si quelqu'un ne veut pas le prendre ainsi en considération, qu'il fasse ce qu'il désire. Mais ce que moi je vous dis, c'est un commandement du Seigneur. Donc pour nous, c'est une évidence que tout ce qui a été écrit dans l'Ancien Testament, comme dans le Nouveau Testament, sont entièrement inspirés de Dieu et c'est le seul outil que Dieu a mis à notre disposition comme croyants est l'outil absolu pour notre foi. Troisième élément rapidement que je vais aborder, la crédibilité. Est-ce qu'on peut faire confiance aux Écritures, la crédibilité des Écritures? Les Écritures témoignent de leur propre crédibilité. Mais ça, on peut dire, c'est un argument facile. C'est facile que j'écrive quelque chose, je dis que ce que je suis en train d'écrire est vrai. Donc, est-ce qu'il y a des éléments extérieurs à la Bible, aux Écritures, qui témoignent de la crédibilité des Écritures? Je vais vous suggérer quelques éléments de réponse. C'est l'unité, la cohérence des écrits de la Bible. Si vous regardez, la Bible a été écrite sur plusieurs milliers d'années. 1500 ans, entre peut-être le premier écrit et le dernier écrit. Et ça a été écrit par des gens sur à peu près tous les continents. Des gens n'étaient pas, ils ne s'étaient pas rassemblés et dans une réunion, ils ont dit, écoutez, on va réfléchir, on va écrire un texte cohérent entre nous. Ce sont des gens qui ont vécu à des époques différentes, dans des cultures différentes. Mais toutes, aucune, il n'y a pas de contradiction. Tous les textes se tiennent ensemble de Genèse à Apocalypse. Et ça, aujourd'hui, vous êtes même dans la même salle et vous tentez d'écrire un texte sur un sujet commun et vous ne vous entendez pas sur le contenu. Mais imaginez 1500 ans d'histoire avec des auteurs complètement différents, qui n'avaient rien, avec un arrière-plan différent de chaque auteur. On voit des paysans, on voit des prophètes, on voit des disciples qui étaient des pêcheurs, qui avaient comme un métier pêcheur. On voit des collecteurs d'impôts, d'anciens collecteurs d'impôts, dirais-je, Matthieu. On voit donc cette diversité de personnes qui écrivent quelque chose et témoignent de la même chose, du même contenu. Cette cohérence extraordinaire vient nous frapper et vient attester s'il y avait besoin que, effectivement, on peut croire ce que la parole de Dieu dit. Et aussi, une des choses qui vient aussi attester, c'est que de nombreux prophètes, et il y a beaucoup de choses dans les Écritures qui avaient annoncé des choses qui devaient arriver. Ne serait-ce que la vie de Jésus, tout ce que les prophètes avaient annoncé sans connaître Jésus. Les prophètes n'avaient aucune idée de qui sera Jésus. Mais tout ce qu'ils ont annoncé s'est réalisé exactement comme ils l'avaient annoncé. Donc, peut-être que ce qui est annoncé dans la Bible qui n'est pas encore arrivé, on peut se demander, est-ce que ça va vraiment arriver? Mais si on regarde ce qui est déjà arrivé, on peut clairement avoir confiance que ce que la Bible dit est vrai. Parce que tous ces passages qui ont été dits par les prophètes viennent attester de la véracité de cela. Et aujourd'hui même encore, il y a des découvertes scientifiques qui sont faites. Ah, finalement, ce qui avait été dit ici dans tel texte de la Bible, finalement c'est vrai, on a la preuve. On a un bout de morceau, on a retrouvé telle chose, on a vu, on a constaté ce phénomène. Et finalement, ça atteste ce qui avait été dit et ce dès plusieurs dizaines et voire milliers d'années avant que cela ne soit dit. Un autre élément qu'on peut citer aussi rapidement, et ça, je peux dire que vous êtes le témoignage de ce que la Bible est vraie. Vous qui êtes ici ce matin, vous êtes le témoignage de ce que la Bible est vraie. Ce que la Bible a produit dans vos vies est un témoignage vivant de ce que la Bible est vraie. Vous avez cru en la parole de Dieu et ça a transformé vos vies. Est-ce que vous voulez une preuve encore plus tangible que ça dans votre propre vie? Il n'y en a pas. Vous avez cru en la parole de Dieu. Et à chaque fois que vous croyez en chaque texte, en chaque promesse de la parole de Dieu, et que vous y tenez, Dieu manifeste sa gloire en honorant votre foi. Ça, c'est une preuve indéniable de la véracité de la parole de Dieu. Donc voilà, en survol, ce qu'on peut dire rapidement sur l'authenticité des Écritures, que ce soit l'Ancien ou le Nouveau Testament. Maintenant, j'aimerais aborder la deuxième partie, les attributs. Quelques attributs. Les attributs, leur objectif peut-être, c'est de nous rassurer que ce que nous venons de dire dans les grandes lignes de la véracité, de l'autorité de la Bible comme parole inspirée de Dieu pour notre foi est vrai. Le premier attribut, c'est l'inspiration divine. J'en ai beaucoup parlé. Et ce matin, donc les Écritures sont divinement inspirées sans que la personnalité des différents auteurs ne soit entachée. Dieu respecte la personnalité des gens. Tous les auteurs qui ont écrit des textes bibliques l'ont écrit avec une certaine personnalité qui transparaît dans ce qu'ils ont écrit. Un poète va écrire, quand David écrit ses textes, il écrit parce que ce sont des poèmes. Donc ça va, on va voir le style de texte, on va voir la personnalité probablement de David. Quand David écrit le psaume 51 où il se repent, on voit David au travers du psaume. Mais cela demeure pas moins la parole inspirée divinement de Dieu. Donc ça c'est clair, on le voit dans 2 Timothée 3, le verset 16, qui le dit clairement, que toute écriture est inspirée de Dieu. Toute écriture. Il ne dit pas certains passages de l'écriture seraient inspirés de Dieu. Ce n'est pas au conditionnel, c'est une affirmation catégorique. Toute écriture est inspirée de Dieu. Donc, c'est une évidence pour nous dans 2 Timothée 3, 16. Dans 2 Pierre 1, 21, car ce n'est jamais par une volonté humaine qu'une prophétie ait été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Je ne pense pas que vous pouvez être plus clair que ça. Toute écriture est inspirée de Dieu. Tout ce que nous avons vient de Dieu. Donc ça, c'est le premier élément. La Bible est la parole absolue de Dieu pour le salut des hommes. Il n'y a pas d'autre. Et j'aime ce texte particulièrement dans Actes 4, 12, qui dit qu'il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom donné parmi les hommes par lequel nous pouvons être sauvés. Je crois que ça dit tout. Il n'y a pas de salut. Vous ne pouvez pas. Vous voulez une solution, et vous voulez une solution magique pour le salut. Ça n'existe pas. La solution, la seule et unique solution que Dieu a donnée pour le salut des hommes s'appelle Jésus-Christ, et c'est la Bible qui le révèle. Donc, ça, c'est vraiment une évidence qu'il faut garder à l'esprit. Le deuxième attribut, c'est l'inhérence des Écritures. Les Écritures sont sans erreur. Maintenant, les gens disent, est-ce que c'est... Oui, tous les textes originaux. Oui, il se peut que quand vous allez dans une traduction, que la traduction ne soit pas vraiment très, très conforme aux textes originaux parce que c'est difficile de traduire exactement un mot avec tout ce que ça pourrait, toutes les nuances que le texte original voulait lui donner. Donc, on peut toujours polémiquer un peu sur la traduction qui a été faite, mais le texte, quand on le prend, le texte tel qu'il a été inspiré et donné par Dieu est sans erreur. Donc, l'écriture est sans erreur. Cela signifie que les manuscrits originaux des Écritures sont conformes aux faits. Les gens n'ont pas essayé d'adoucir certains éléments. Et des fois, quand vous êtes jeune chrétien, des fois vous êtes vraiment frappé par l'authenticité de certains textes bibliques. Parce qu'on se dit que si Dieu voulait cacher... C'est comme cette scène-là est un peu trop lugubre, trop sombre. Moi, si j'étais un auteur, j'allais comme essayer de maquiller ça pour mieux faire paraître Dieu ou pour mieux faire paraître les circonstances. Mais les choses sont faites conformément à ce qu'il y a, à la vérité, au fait. Rien n'a été caviardé comme on le voit. On dit non, ça, c'est pas. Non, on enlève ça, on retire ça. Et on garde juste ce qu'on veut que les gens sachent. Non, ce n'est pas comme ça que les Écritures ont été transmises. Ils ont été transmises exactement conformément au fait. La Bible nous apporte une vérité absolue et est l'autorité absolue pour notre foi. Et même l'autorité de la Bible et notre foi dépend de cela. Parce que imaginez qu'il y aurait une erreur dans la Bible. Imaginez, on fait l'hypothèse, qu'il y aurait une erreur dans la Bible. On ouvre ce qu'on appelle une boîte de Pandore. Qu'est-ce qui me vient me rassurer que ce en quoi je crois n'est pas truffé d'erreur? S'il y avait une erreur possible dans la Bible, alors la foi, ma foi, serait quelque part pas aussi solide qu'elle peut l'être parce que je ne sais pas si ce que je crois est vrai ou quelle est la partie qui est vraie, quelle est la partie qui est moins vraie. Donc, le fait d'avoir cet attribut vient clarifier le fait qu'il n'y a pas un seul élément dans la Bible qui a été donné qui est qui contient une erreur et qu'on doit aller chercher une solution ailleurs. Toutes les solutions sont dans la parole de Dieu. C'est clair, c'est évident, et d'après ce que la parole nous rapporte. Troisième élément, c'est l'infaillibilité de la parole de Dieu. Quand on lit, on va lire quelques textes, mais le premier élément, c'est que les textes, les Écritures, toutes les Écritures anciennes jusqu'au Nouveau Testament sont sans erreur. Donc, la Bible est entièrement digne de confiance et fiable. La Bible, on peut faire confiance à la Bible. Il n'y a pas un seul élément pour lequel on peut douter. Tout ce qui est rapporté dans les Écritures a un but. Dieu ne dit jamais rien de façon non intentionnelle. Ce n'est pas comme si Dieu dit des choses qui sont comme superflues ou OK, c'est juste pour amuser les gens. Tout ce que Dieu dit, il le dit pour un but donné. Il n'y a pas un seul texte dans les Écritures qui sont là pour rien, qui ne servent à rien, qui ont une histoire qui a été rapportée, mais en réalité, on aurait pu s'en passer. Non, tout ce qui a été rapporté dans les Écritures, anciens jusqu'au Nouveau Testament, tout cela a été dit avec un objectif bien précis. Voilà pourquoi des fois, comme prédicateur, des fois, il y a certains prédicateurs qui vont aimer prêcher un texte ou des extraits particuliers, l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, les Psaumes, tout ça. Cela ne veut pas dire que les autres parties ne sont pas importantes. Tout ce qui a été dit, quand vous lisez votre Bible, par exemple les généalogies, c'est peut-être la partie qui est la plus complexe à lire. Vous lisez une suite de noms, vous demandez à quoi ça sert que je lis cette suite de noms. Mais même cette suite de noms a été écrite pour un but. Tout ce qui a été écrit pour un but. Il n'y a pas un seul texte. Peut-être que vous ne voyez pas l'utilité pour vous dans l'immédiat au moment où vous le lisez. Mais si ça a été écrit, ça a été écrit avec un but bien clair dans l'esprit de Dieu. Et quand on lit Apocalypse 22, qui est un peu comme la conclusion de la Bible, donc quand on voit la chronologie dans laquelle les textes ont été donnés, qui est comme la conclusion de la Bible, on voit clairement un texte qui est quand même assez perturbant pour le chrétien, parce que le texte est un avertissement solennel de l'auteur de ce livre, et il le dit de façon très solennelle. Donc, le verset 18 au verset 19, il est écrit « Je le déclare à toute personne qui écoute les paroles de la prophétie de ce livre, si quelqu'un ajoute quelque chose, Dieu ajoutera les fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un enlève quelque chose aux paroles de ce livre, de cette prophétie, Dieu enlèvera sa part de l'arbre de vie et de la ville sainte décrit dans ce livre. » Certes, le texte était peut-être orienté par rapport à la prophétie que l'apôtre Jean a reçue dans Apocalypse. Mais on peut facilement faire l'extension à l'ensemble de la parole de Dieu si on se souvient des paroles de Jésus lui-même qui dit qu'il n'y a pas un seul trait de l'être qui disparaîtra. Donc tout ce qui a été écrit et nous n'avons pas le devoir, le droit, nous n'avons aucun privilège pour arracher ne serait-ce qu'une seule parole de ce qui a été révélé. Généralement, j'avais un pasteur qui avait l'habitude de dire, si vous lisez un texte dans votre Bible qui ne vous plaît pas, arrachez la feuille. Vous dites, non, c'est trop compliqué pour moi, vous arrachez la feuille. Au bout, quasiment, d'une année, vous auriez arraché toutes les feuilles de votre Bible. Tout simplement parce qu'en fait, la Bible n'a pas été écrite pour notre plaisir. Ce n'est pas pour nous plaire. Nous devons travailler à atteindre les standards de Dieu et non Dieu qui doit s'arranger pour que ces standards révélés dans sa parole soient à notre goût. Donc, il faut que nous puissions garder ça à l'esprit. Cela fait partie de l'infaillibilité de la parole. La clarté des Écritures, donc, c'est évident quand on lit les Écritures, que les Écritures sont claires, elles sont rationnelles, même certaines parties des Écritures qui sont difficiles à comprendre, comme on l'a souligné tout à l'heure, sont des écrits que nous devons entièrement accepter parce que divinement inspirés de Dieu. Je vous donne quelques références sans les lire. Et dans 2 Pierre 3:16, le psaume 19 et le verset 8 et Luc 24, le verset 25, où alors Jésus prenant la parole, donc, alors Jésus leur dit, « Homme sans intelligence, dont le cœur est lent à comprendre tout ce qu'a dit les prophètes. » Donc, il est clair que oui, parfois, nous pensons qu'un passage manque de clarté, mais en réalité, nous devions tout simplement avoir à l'esprit que c'est nous qui manquons vraiment d'intelligence parfois pour comprendre certaines choses. Parce que oui, il y a des choses difficiles à comprendre dans les Écritures. Mais ce n'est pas parce que nous ne comprenons pas que les passages ne sont pas clairs. Et peut-être l'avant-dernier point que j'aimerais aborder, c'est la nécessité des Écritures. Donc, les Écritures sont nécessaires pour annoncer la connaissance de Dieu et au travers de l'Évangile, pour nous permettre de grandir spirituellement et pour connaître la volonté de Dieu. Il est évident que l'existence de Dieu, on n'a pas besoin de la Bible pour connaître l'existence de Dieu dans l'absolu, parce que la Bible nous dit que Dieu peut se révéler au travers de la nature. Il y a des gens qui n'ont jamais eu la Bible, mais qui ont eu la révélation de Dieu. Au travers, Dieu se révèle, peut se révéler. L'existence de Dieu en elle-même n'a pas besoin de la Bible, mais la Bible, de façon abondante, nous permet de mieux connaître Dieu, de connaître son plan divin pour nous. Mais en ce qui concerne son existence, c'est sûr qu'il y a beaucoup d'autres éléments dans la nature autour de nous qui peuvent nous amener. Et donc, ça nous permet de parler de la nécessité. Enfin, le dernier point que j'aimerais aborder, c'est la suffisance des Écritures. Les Écritures sont suffisantes. Les Écritures sont suffisantes car il contient tout ce dont l'humanité, c'est-à-dire l'homme, a besoin pour son salut et pour obéir parfaitement à Dieu dans toutes les circonstances et dans toutes les générations. Il n'y a pas quelque chose qui manque. C'est suffisant. On n'a pas besoin d'un autre livre. On n'a pas besoin d'une révélation. C'est quelque chose qui vient d'apparaître. C'est nouveau. C'est nouveau. C'est quelque chose qui vient d'apparaître. On en entend, le Saint-Esprit nous l'a révélé. Ça n'existe nulle part dans la Bible, mais le Saint-Esprit nous l'a révélé. Non, les Écritures sont suffisantes. La Bible que vous avez est suffisante pour tout ce dont vous avez besoin dans votre foi, dans votre marche avec Dieu. Nous trouvons dans les Écritures les réponses à tout ce dont nous avons besoin pour notre vie, la vie à laquelle Dieu nous a appelés. Il n'y a rien qui manque. Est-ce que la Bible parle des drones? Ce qui veut dire qu'il y a quelque chose qui manque à la Bible. Est-ce que c'est ce que ça signifie? Est-ce que la Bible... Non, on n'est pas en train de dire que tous les sujets qui existent dans l'univers, vous trouverez un texte biblique qui en parle. Cet attribut signifie. Il signifie tout simplement que tout ce dont nous avons besoin, comme croyants, comme enfants de Dieu, pour connaître Dieu, pour marcher avec lui, on le trouvera dans les Écritures. Il n'y a rien qui manque. Sur tous les sujets nécessaires, essentiels à notre foi, à notre salut, tout est dans les Écritures. Il n'y a rien qui manque à cela. J'aimerais donc finir. Donc... Oui. Oui, s'il vous plaît, allez-y. Français courant, semeur, second 21. Qu'est-ce que ça apporte? Donc, bon, déjà, ça apporte que, en fait, déjà, les textes originaux sont soit en hébreu, soit en grec. Donc, moi, je parle ni l'hébreu, ni le grec. Ce qui veut dire que si on partait sur ce plan, personne ici n'aurait accès à la parole de Dieu. Donc, la traduction a permis tout simplement à des gens de travailler les textes originaux pour les rendre accessibles à nous dans notre langue. Or, quand on prend même le français, en prenant juste le français, parmi ceux qui parlent le français québécois n'est pas le français de France. Ce qui veut dire que si je veux qu'un Québécois comprenne davantage, il va falloir que je traduise les textes avec un peu ce langage-là pour qu'ils comprennent. Si je parle en français, je vais appeler les choses. Et même dans un seul pays, il y a différents niveaux de langue. Français courant va le dire de façon peut-être beaucoup plus facile pour qu'on puisse l'expliquer à des gens, à des jeunes enfants, par exemple. Donc, c'est de là que vient cette notion de traduction. Donc, l'exercice, je vais vous demander un travail à faire. Donc, si vous avez pris les notes qui ont été donnés derrière. Je vais vous demander un travail à faire, je vais juste le survoler. C'est de se demander qu'est-ce que ce qu'on a dit ce matin, les différents attributs. On a vu 6 attributs de la parole de Dieu. Comment ces attributs peuvent se traduire dans notre vie de chaque jour? Je vous donne une illustration juste à titre d'exemple. Donc, si vous prenez un attribut, comme je prends le dernier, tant qu'à faire. Prenons le dernier, la suffisance des paroles, des Écritures. Les Écritures sont suffisantes. Cela, qu'est-ce que cela, si je veux l'appliquer moi, comme chrétien dans ma vie, qu'est-ce que cela doit signifier pour moi chaque jour? Le fait que la parole de Dieu est suffisante. Cela peut signifier en ce qui me concerne, donc ça j'ai écrit ça par exemple, en ce qui me concerne moi, cela peut signifier qu'aucune addition n'est possible à la parole, que ce soit le fruit de notre imagination, de notre réalisme, de notre pragmatisme, ou qu'elle vienne d'une nouvelle révélation, cette vérité doit s'appliquer dans tous les domaines de ma vie. Je ne peux pas croire quelqu'un. Quelqu'un vient me dire, tu sais, on vient de découvrir une nouvelle manière de s'approcher davantage de Dieu. OK, où est-ce que c'est écrit dans la Bible? Si ce n'est pas écrit dans la Bible, donc, cette nouvelle manière n'existe pas parce que les Écritures sont suffisantes. Si je ne crois pas à la suffisance des Écritures, peut-être que je dis, ah, est-ce que tu peux me dire le nouveau secret pour s'approcher de Dieu? Je ne peux pas, parce que les Écritures sont suffisantes. Donc, j'aimerais nous inviter chacun à repasser tous les 6 attributs qu'on a regardés et mettez-le pour vous-même. Si je veux l'appliquer à ma vie de tous les jours, qu'est-ce que ça signifie concrètement pour moi? Qu'est-ce que ça signifie concrètement pour moi? Si je dis que la Bible est sans erreur, qu'est-ce que ça signifie concrètement pour moi? Peut-être que le prédicateur ce matin va dire des choses qui ne me plaisent pas, mais je dois pouvoir les accepter et m'efforcer de marcher en conformité parce que la Bible dit vrai. Et la parole qui m'a été dite, même si elle ne me réjouit pas, elle vient confirmer ce que Dieu veut que je sois. Donc chacun peut trouver une application à sa propre vie de ces vérités des Écritures. Donc la semaine prochaine, la semaine prochaine, on va poursuivre avec un thème qui va se faire en 2 séances, donc la personne de Dieu, et on va regarder la semaine prochaine en particulier je crois que c'est la personne de Dieu lui-même, et ensuite on va voir son œuvre. Et dans la suite, donc la semaine prochaine, ça va être Alex qui va poursuivre ce survol. Donc j'espère que le cours de ce matin nous a permis et de jeter une lumière globale sur c'est quoi la parole de Dieu pour nous, qu'est-ce qu'elle représente pour nous, l'Ancien comme le Nouveau Testament, la suffisance de la parole de Dieu, c'est vraiment un élément essentiel qu'on peut avoir à l'esprit, que nous n'avons rien à ajouter, la parole de Dieu est suffisante et on doit partir avec ça. Prions. Seigneur notre Dieu, merci pour ta grâce, merci pour ton enseignement ce matin, merci de ce que nous pouvons nous fier entièrement à ta parole. Ce qu'il n'y a rien dans ta parole qui soit sujet à une erreur ou à quelque chose de superflu dont on n'avait pas besoin, mais tout ce qui a été dit dans un but particulier. Et notre désir ce matin, c'est que tu nous aides jour après jour dans notre marche avec toi à placer la parole, ta parole au centre de notre vie, à nous laisser modeler par cette parole, à nous laisser conduire, diriger par cette parole pour la gloire de ton nom. Sois béni en Jésus-Christ. Amen.
Merci.
Bon culte.